dans The Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathiot et Thomas Benzazon.
Vous avez découvert les recettes d'AB Testi et de son succès aujourd'hui qui fait de l'entreprise une des plus belles boîtes françaises au Next 40. On s'intéresse maintenant avec mon compère Olivier Mathiot et avec notre invité Alix de Sagazan à ce qui a forgé la femme et l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui juste après ce jingle.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Donc on va parler de toi, Alix. Je sais que tu as plus l'habitude de pitcher AB Testi que ta propre personne. Mais si tu devais nous raconter, on va dire qu'il n'y a que Olivier et moi. Qui est Alix de Sagazan? Qui était la petite fille Alix, devenue grande aujourd'hui?
Mais attends, c'est hyper dur ta question là.
T'es sur le canap.
Non, mais on peut le préciser parce que très souvent on se pose toujours, tu sais, la question de est-ce que les gens naissent entrepreneurs ou est-ce qu'ils le deviennent.
Ouais.
Est-ce que c'est dans le parcours de l'éducation? Est-ce que ça vient des parents? Et en plus, comme t'es une femme, même peut-être que t'as pas toujours envie qu'on parle de toi en tant que fan parce que c'est parfois ça peut être considéré comme étant faisant partie des quotas, etc. Ce que je peux comprendre, mais on peut imaginer. En tout cas, nous, on constate c'est qu'il y a quand même peu de femmes entrepreneurs dans les SCAR, quoi. C'est une réalité statistique.
T'es gentil, Olivier.
Ouais, ouais. Non, mais en fait, je vais prendre ça par cet angle-là. Moi, ça me dérange pas du tout de parler de ça. Je pense pas que dans mon éducation, enfin, moi, j'ai pas des parents entrepreneurs. J'ai grandi à Paris. Enfin, j'ai pas forcément. Je trouve qu'il y a des caractères de personnes qui sont des entrepreneurs dans l'âme, entre guillemets, quand tu les rencontres, tu vois que, je sais pas, il y a une revanche à prendre ou quelque chose comme ça. Moi, c'est pas tout à fait ça. En essayant d'analyser un petit peu, hein, en essayant de faire un peu de psycho, c'est vraiment. Alors moi, je suis une empathique plus. Moi, je prends beaucoup de mon énergie chez les autres. Et moi, ça a été vraiment la rencontre avec mon associé qui a été un déclencheur. C'est-à-dire que bon, moi, Rémi, c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Hein. On avait été moniteur de colo de vacances ensemble. Voilà, on va dire qu'on avait une bande en commun, mais on n'était pas particulièrement copains. On s'est retrouvés dans le boulot quand on avait 26, 27 ans, et pendant 25, 26 plutôt. Et en fait, je me suis dit, ce mec-là, il a vachement de potentiel, il a plein de super idées. Donc voilà, il y avait ça. Et puis moi, de l'autre côté, je me disais, c'est vrai que j'ai un petit côté un petit peu on n'a qu'une vie, il faut faire plein de choses, ça je sais pas trop d'où ça vient, et puis un petit côté un petit peu aventure, moi je me lance, j'y vais, et d'ailleurs parfois je ne réfléchis pas assez, hein, je fonctionne beaucoup à l'instinct, et en fait voilà, j'ai eu un espèce d'instinct, je me suis dit il a plein de super idées, moi ça m'amuse de monter quelque chose, et puis après derrière financièrement j'avais pas de prêt sur le dos, j'allais me marier aussi, j'avais mon mari qui avait une situation, j'avais pas de risque. Enfin, tu vois, je trouve pas que j'ai beaucoup de mérite. J'avais aucun risque en fait à prendre. Je me suis juste dit j'y vais. Et puis on a eu deux années au début pour moi très difficiles, hein, parce qu'on avait vraiment du mal à signer des contrats. On n'arrivait pas à vraiment positionner notre offre. Et moi, plein de fois, j'ai failli lâcher le truc. Et je dis toujours que si j'ai continué, c'est parce que je suis entourée par deux hommes formidables, qui sont à la fois mon mari qui m'a toujours beaucoup encouragée, et puis mon associé qui a aussi un caractère très constant et qui a toujours dit mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Alors que moi, je partais un peu dans tous les sens. Donc voilà, moi c'est beaucoup lié en fait à mon entourage, je pense.
Tu me fais une super transition, Alix. Tu parlais des deux hommes de ta vie, donc ton mari et ton associé. C'est vrai que dans ce podcast et au-delà, on a tendance à dire que s'associer, c'est un peu comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, je crois qu'Olivier le sait pas et sûrement pas nos auditeurs, mais on s'était mariés ensemble, toi et moi, Alix, dans une vidéo pour parler justement de ce sujet. Je crois qu'on a été mariés par Dominique Restineau, le président de la CCI, au nom de l'entrepreneuriat français. parlais du cabis et de je sais plus quoi. Mais du coup, super transition, parce que on voulait parler avec Olivier et toi de ton association avec Rémi, et c'est aussi une autre manière de découvrir qui tu es. À notre habitude, on allait chercher quelques proches à toi pour leur demander des questions surprises, et en fait, Rémi s'est complètement lâché, donc c'est pas un message, c'est pas deux messages, c'est même pas trois messages, je ne sais plus combien il y a de messages, mais je me suis beaucoup amusé à les recevoir et à les écouter. Je te propose de te les passer, je pense que je vais tous les passer à la suite, et tu répondras à ceux que tu veux, dans l'ordre ou pas. On l'écoute.
Vous avez un message.
Hello Alix, parmi nos investisseurs chéris, quel est ton préféré?
Il est con. Il est con.
C'est un peu comme demander à ses enfants lequel on préfère, c'est sympa ça.
Oh, c'est clair, c'est
ça,
clair.
Ça va foutre
il s'est
le
beaucoup
foutoir.
Amusé.
Non, non, ça, alors ça va pas du tout foutre le foutoir parce que je trouve qu'ils ont tous.
Non, tu vas vois, pas dire que chacun, tu les aimes tous, hein.
Bah non, mais non, bah alors très sincèrement,
faut choisir.
Non, mais franchement, on a de la chance, on a des, non mais je fais pas de langue de bois, on a des investisseurs qui sont hyper supportifs. Voilà, ils sont, enfin voilà, ils sont derrière nous, ils suivent nos décisions, voilà,
ils sont supportifs. Non, mais c'est parfait pour la question d'après.
Bon bah là, oh là là, vas-y.
Vous avez un message.
Hello Alix, après 2 ans et demi aux US, t'arrive-t-il de ne plus trouver les mots en français?
Non, mais il est vraiment débile mental. Non, mais parfois, non, mais je me surprends à avoir un espèce de vocabulaire franglais où je pense qu'il y a, il y a 5 ans, j'aurais baffé la personne qui aurait parlé comme moi. Et parfois, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Déjà, à la base, quand on travaille dans des startups, on dit des mots anglais tout le temps et c'est insupportable. Et là, effectivement, oui, parfois, ça m'arrive. Alors non, on peut trouver mon mot en français, faut pas exagérer. Surtout que moi, j'ai une grosse communauté française ici, donc je parle quand même beaucoup français. Mais par contre, oui, mettre des mots anglais dans les phrases, j'avoue, ça m'arrive.
Vous avez un message.
Hello Alix, pour tester ta culture US après 2 ans et demi sur le sol américain, peux-tu nous citer les présidents US encore vivants?
Bah c'est facile, ils ont fait un petit pitch dans le cimetière de Washington, Barack.
Il en manquait un.
Ah ouais, bah oui, il manquait. Attends, il y avait Bush, il y avait Clinton, et il y avait Obama. Oui, t'as raison, il manquait. Il y en a un qui est encore. C'est Carter qui est encore vivant, je crois.
Et puis il manquait Trump. Trump pour Carter, je sais pas. Mais...
Oui, Trump, bon, Trump, voilà quoi.
Ok, on continue.
Vous avez un message.
Hello Alix, y a-t-il une action quotidienne que tu fais pour laquelle tu te dis, maintenant que je fais ça, je suis vraiment une ricaine?
Ouais, vous savez ce que je fais? Le matin, j'avoue, je vais, il y a un disquaire à côté de chez moi qui met de la musique country. Et le matin, je vais déposer ma fille à l'école, je vais chez mon disquaire, j'écoute sa petite musique country et je prends un americano.
C'est bon ça.
Ouais, c'est génial.
Tu nous donneras l'adresse en privé.
Carrément.
Une dernière question de Rémi.
Vous avez un message.
Hello Alix, si tu faisais comme tous ces Français partis à l'étranger trop longtemps qui donnent des leçons, quelles leçons donnerais-tu?
Bah ouais, je vais en donner une. Les Français, arrêtez d'être pessimistes. Soyez optimistes comme les Américains.
Et est-ce que l'optimisme américain est pas parfois trop exagéré ou un peu fake, comme diraient les adolescents? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est peut-être déjà trop français?
Ouais, non, moi personnellement, parfois je me demande, je me dis, alors non, je n'aurais pas dû naître américaine parce que j'aime trop le fromage. Et j'aime trop la nourriture française. Mais par contre, j'avoue que moi, qui suis quelqu'un de horriblement optimiste, qui suis tout le temps, d'ailleurs, on m'appelle un peu le bisounours parce que je suis très très à ne voir toujours que le bon partout. C'est vrai que ça me correspond bien et que j'adore cette mentalité. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau, quoi.
Je te propose une toute dernière question. C'est Rémi qui t'a choisi un invité surprise qui avait une question pour toi.
Oh là
je te
là.
Propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Salut Alix. En arrivant à New York, quelles étaient tes plus grandes surprises, aussi bien positives que négatives?
Je trouvais qui c'était.
Tu peux nous dire qui c'est?
C'est Reza.
Ouais.
C'est Reza, notre investisseur de Partech, qui a vécu 30 ans aux US, donc qui est un franco-américain.
Tu veux changer ta réponse à qui est ton investisseur préféré?
Il est encore temps.
Au moins lui comme il est américain, il vient me voir à New York, il est venu en octobre et il vient dans 2 semaines, donc au moins comme ça j'ai il y a des gens qui viennent me voir. New York, parfois je trouve ça un petit peu crade dans le centre de New York, je trouve ça toujours très propre. Et en fait,
hashtag tout... des grades New York.
Hashtag mmh. Ouais, c'est ça, j'ai vu les trucs, les hashtags de Paris, là, mon Dieu. Non, quand j'ai décidé de partir, je ne voulais surtout pas vivre à Manhattan. Pour moi, Manhattan, c'est pas possible. J'habite à Brooklyn, qui pour moi est un quartier absolument magique. J'adore. C'est des quartiers plutôt résidentiels, de maisons, mais avec des tonnes de bars, de restos, d'endroits sympas. Et surtout, quelle a été ma plus grande surprise et mon plus grand bonheur en arrivant à New York, c'est de découvrir, je le savais, mais je ne l'avais pas matérialisé, que j'allais habiter au bord de la mer. Olivier, tu habites à Marseille, tu sais ce que c'est. J'habite au bord de la mer. Je prends le vélo tous les matins, alors pas là, mais pour aller au bureau, je traverse le pont de Manhattan, je vois l'étendue bleue en dessous de moi. Le week-end, à partir de mai, on est à la plage tous les week-ends non-stop jusqu'à mi-octobre. La plage est à 20 minutes, les plages sont magnifiques, on fait du surf, on fait du kitesurf, c'est vraiment trop bien. Donc ça, c'est la grosse surprise de New York, c'est au bord de la mer, et quand tu habites à Brooklyn, tu es encore plus près de la mer.
On est avec Olivier sur la partie canapé d'Alix de Sagazan. Donc, on essaie aussi de comprendre qui tu es, ce que tu es. Et dans ce voyage à New York, tu le disais un petit peu dans la première partie, mais il y avait quand même un choix de vie. Et, ouais. Et derrière, donc, un mari, 2 enfants, si j'ai bien compris.
Oui.
Ça se décide comment une telle... qu'est-ce qu'a fait le déclic chez toi, au-delà peut-être de la boîte d'ailleurs?
Et
puis comment on convainc ses proches de partir à l'autre bout du monde?
Le déclic, il a été, de toute façon, je me suis dit, à un moment, c'est quand même une opportunité formidable. On n'a pas l'occasion tous les jours de partir vivre dans un autre pays. Donc, le déclic, il a été assez facile. Et puis, moi, j'ai un mari qui est espagnol et qui a vécu 2 ans aux États-Unis quand il était petit. Donc, ça n'a pas été très compliqué de le convaincre. C'est même lui qui m'a dit « let's go ». Donc, ça n'a pas été une décision trop compliquée. Puis moi, mes enfants, ils sont encore petits, donc c'est très malléable à cet âge-là. Quoi qu'il arrive, les enfants, quand ils voient que leurs parents sont contents, ils sont contents. Et puis là, j'ai des enfants du coup qui parlent 3 langues, donc je suis extrêmement jalouse, puisqu'on parle français et espagnol à la maison, et puis ils parlent anglais à l'école, donc, ils n'ont pas d'accent, ils se foutent de ma gueule quand je parle anglais ou quand je parle espagnol, c'est génial.
T'as pas trop voulu livrer la petite fille que tu as été, on aura peut-être l'occasion dans un futur épisode d'en discuter, mais t'es maman, t'es entrepreneur, t'es citoyenne du coup du monde, au moins française et peut-être américaine, qu'est-ce que t'as envie de transmettre à tes gamins? Sur la manière de voir le monde, sur la manière de se projeter dans la vie.
Ouais, écoute, en fait, je pense que le fait... C'est la question qui tue, quoi. Non, mais en fait, je pense que...
Ils ressortiront ta réponse dans 20 ans.
Ouais, c'est clair. Non, mais je vais pas m'étendre. Mais par contre, en vrai, gros sujet quand même sur l'ouverture à l'international. Moi, j'ai été élevée dans une famille très française à Paris, avec des cours d'anglais, tu sais... donné par des profs, j'espère qu'ils m'entendent pas, mais qui étaient clairement pas très bons, à part 1 ou 2. Et donc, arriver sur le marché du travail avec un anglais très moyen, je trouve que c'est carrément un crime aujourd'hui, dans un monde globalisé, en fait. Si tu veux, encore aujourd'hui, là, je suis, tu vois, faire un podcast en français, pour moi, là, c'est cool et c'est facile, et faire un podcast en anglais, je peux y arriver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je trouve que d'offrir aux enfants... 2 langues, 3 langues et une ouverture sur le monde où tu pourras étudier de n'importe où, tu pourras, comme tu dis, t'es évidemment, t'es français, t'es européen, t'es espagnol, mais t'es quand même, t'as quand même vécu aux États-Unis, donc une ouverture à l'international et puis surtout aux langues que je trouve franchement hyper importantes. Et je trouve que l'éducation française est assez fautive de pas offrir de l'anglais dès le plus jeune âge.
Et en dehors
de manière... Ouais.
En dehors de l'apprentissage des langues, là, c'est clairement, ils ont une chance incroyable et j'espère qu'ils le mesurent ou qu'ils le mesureront. Mais est-ce que toi, tu dirais que maintenant, tu as envie que tes enfants soient dans le système américain pour d'autres raisons en termes éducatifs ou tu as envie qu'ils aient aussi une éducation française?
Non, en fait, je trouve que de toute façon, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je trouve que le système américain est formidable pour le développement personnel, le marketing de soi et plein de choses. L'apprentissage académique français est aussi absolument excellent. Et là, tu vois, en ce moment, j'ai de la chance parce que, enfin, j'ai de la chance. Nous, on n'a pas eu de chance du tout avec les écoles cette année. Hein. On se plaint beaucoup en France, mais il faut savoir que les écoles étaient ouvertes tout le temps. Nous, les écoles, elles ferment au bout de 2 cas dans des écoles de 1000 personnes. Donc, l'école de mon fils a fermé 7 fois cette année. Il a école 1 jour sur 2 que le matin. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à trouver un tuteur français. Et on a organisé une classe chez moi, là, en bas, avec quelques copains. Donc, ils ont de l'éducation à la fois française et américaine. Américaine à l'école et puis française ici. Et je trouve que, tout simplement, des programmes bilingues où tu peux avoir un petit peu les deux, c'est génial parce que, de toute façon, il y a du bien dans les deux. Et je ne vais pas dire, non, je mettrai mes enfants que dans le système américain ou que dans le système français. C'est clair que si jamais on revient en France ou en Espagne, j'essaierai de trouver des écoles internationales, c'est sûr.
S'inspirer. Respirer.
S'inspirer, respirer, Olivier.
S'inspirer, respirer, c'est aussi arriver à comprendre comment est-ce qu'on arrive à équilibrer un peu sa vie et comment est-ce que tu trouves des moments de respiration en dehors de tout le travail que demande l'entrepreneuriat, de développer sa boîte, en complémentarité avec ton associé, évidemment, Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres moments ou d'autres choses que tu peux nous apprendre et qui seraient peut-être aussi des leçons pour plein de gens qui nous écoutent pour trouver l'équilibre que tu arrives à trouver? Ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être d'autres choses. Et quels sont les moments que tu arrives à préserver en dehors de ce que tu donnes à Bethesty?
Et en dehors du libraire et du...
Ouais,
et
non, non, mais c'est pas très... Enfin, c'est assez simple. Hein, en plus, là, avec le confinement, je trouve qu'on a une vie de famille qui est formidable parce qu'on arrive à beaucoup, beaucoup voir les enfants. Mais en gros, moi, je m'arrête de travailler je sais pas, 6 heures. Je travaille pas le soir. Je travaille pas le week-end. Donc, je déconnecte beaucoup. En déconnectant, voilà, j'essaye d'être à fond avec la famille, les copains, voilà, je sors le soir, enfin j'ai une vie.
C'est quelque chose que quelque chose que tu as toujours réussi à faire dans ta vie d'entrepreneur ou ça n'a pu arriver qu'à un certain stade de développement de l'entreprise?
Non, j'ai beaucoup bossé au début et surtout je suis beaucoup sortie pour le boulot, je m'en rappelle quand j'étais à Paris. Je passais toutes mes soirées dans des trucs de taf. Et en fait, non, moi, je trouve que c'est l'arrivée des enfants qui a complètement tout bousculé, quoi. L'arrivée des enfants où, voilà, tes priorités changent et puis c'est tes enfants qui passent avant tout. Donc voilà, après, c'est plus... Moi, je trouve que c'est plus parfois dans le... Quand on a un peu des périodes de rush, mais enfin, je ne sais pas si c'est très différent pour un entrepreneur que pour n'importe qui. C'est juste que t'as l'esprit parfois très occupé. Moi, mon mari me dit parfois, oh là là, t'es ailleurs. C'est plus l'esprit qui est occupé que le parce que ça t'habite tout le temps et t'y penses un peu tout le temps, quoi. Mais bon, je sais pas si c'est très différent.
On a un autre podcast qu'on a lancé sur les jeunes et leur rapport au digital et aux usages du numérique. T'as des enfants, donc tu es mère, tu es aussi entrepreneur dans le digital.
Ouais.
Tu évoquais d'ailleurs pas mal de data scientists chez Abetesti. Comment tu projettes l'éducation numérique de tes enfants, à la fois avec tout ce qu'il peut y avoir de bien et en même temps tous les écueils et les risques à se faire peut-être des fois embarquer dans ses choix et ses décisions par des algorithmes qui nous font des suggestions qui sont peut-être certes très appropriées à ce qu'on pourrait vouloir, mais qui mettent de côté la nouveauté et l'incertain.
Ouais, écoute, les enfants, enfin moi, ils sont encore petits, donc c'est pas trop des sujets que j'ai encore eu. Tout ce que je trouve, c'est que ils ont beaucoup promu aux États-Unis le remote learning. Là, je viens de recevoir un mail de vous pouvez, si vous voulez, opter pour le remote learning, le full remote learning l'année prochaine. Je ne sais même pas comment est-ce que pour des enfants 6 ans, tu peux te dire que ça peut marcher. Donc ça, je n'y crois pas une seconde. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc sur l'hygiène, entre guillemets, l'hygiène digitale, c'est toujours un truc qui me marque chez les gens, c'est que je vais à l'information, c'est pas l'information qui vient à moi. Donc t'enlèves toutes tes notifs, j'ai pas une seule notif sur mon téléphone et puis c'est moi qui vais à l'information. Moi, bon, malheureusement, je pense que j'ai quand même cette espèce de fâcheuse tendance à prendre mon téléphone pour aller regarder ce qui s'y passe. Mais ça, je pense qu'on est un peu tous esclaves et on essaye tous de s'en sortir, mais c'est pas forcément simple. Et donc pour les enfants, si tu veux, moi ils ont 6 et 3, bientôt 7 et 4, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de problématiques associées à ça. J'ai pas encore de problématiques d'enfants qui sont sur Snapchat, TikTok, etc. toute la journée, quoi. Ça, c'est une question qu'il faut poser à Olivier plutôt qu'à des
adolescents. Ouais, mais on n'a pas forcément le temps de s'étendre sur mes adolescents, mais en tous les cas, moi, j'étais parti plutôt confiant en me disant, on va faire en quelque sorte confiance à la nature humaine et à la capacité des enfants à trouver un bon équilibre. Et voyant les voyant tourner adolescents, mais je veux pas te présager de sombre avenir, mais c'est vrai, ouais, que souvent on dit petits enfants petits problèmes, grands enfants grands problèmes.
Ouais.
Je trouve qu'après effectivement leur maturité gagne sur certains aspects, hein, parce qu'ils ont une prise de recul et de l'intelligence, mais ils ont aussi une dépendance qui est parfois un peu affolante et du coup une capacité de concentration, je trouve, qui diminue aussi.
Ouais, non mais ça je suis d'accord et je le constate même à 7 ans quand mon fils me pique mon téléphone pour aller regarder des trucs. Ça, parfois, ça te panique un peu, ouais. Ouais.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Full carte blanche pour Alix de Sagazan. 2 minutes. Super. Sur le sujet de ton choix.
Ouais, ça marche. Non, bah écoute, tu me l'as dit il y a quelques minutes, donc j'ai eu le temps de trouver le sujet. Je vais prendre du coup le sujet dont vous avez un tout petit peu parlé, sur le sujet de la femme entrepreneur, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même important, sur lequel au tout début, comme je n'avais pas forcément eu de problématique pour lever des fonds, etc., je ne me disais pas que c'était un problème. Et puis en fait, plus ça va et plus je trouve que oui, il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs, mais par contre, je pense qu'on prend le très bon chemin parce qu'il y en a de plus en plus. Et en fait, ce que je dis toujours sur les femmes, et encore hier, j'en parlais avec une femme entrepreneur, c'est vraiment la question de la confiance, dans le sens où je pense que les femmes ont beaucoup moins confiance en elles et que c'est intrinsèque à l'éducation et à la manière dont on formate nos petites filles et que c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faut leur donner une éducation où derrière elles seront des promoteurs et aussi des empathiques, mais surtout des promoteurs, et qu'elles auront confiance en elles et qu'elles pourront avancer, parce que une femme, parfois on peut dire on croit qu'elle a confiance en elle, mais en fait une femme qui a confiance en elle, pour moi c'est 10% d'un homme qui a confiance en lui, quoi. Dans le sens où hier je parlais avec une fille entrepreneur sur sa levée de fonds et je lui parlais des conditions, des choses à demander. Elle me dit, ah, mais ça j'oserais pas. Et je lui dis, bah moi non plus j'ai pas osé, c'est mon associé qui a demandé ça. Et elle me disait, mais c'est marrant parce que moi je me dis que j'ai pas la légitimité pour, et je dis, bah ouais, mais tu vois, moi mon associé il a eu la plombe de demander, et moi je me suis dit que j'avais pas la légitimité, parce qu'en fait à chaque fois quand on est des femmes on se dit qu'on n'est pas légitime. Et elle me dit, c'est marrant parce que j'ai plutôt réputation d'être plutôt sûre de moi, et en fait je m'aperçois que je le suis pas, et je dis, bah oui, c'est exactement ça. Et en fait c'est un vrai, je trouve que c'est un énorme sujet en fait, qui est très important. J'espère qu'il résonne chez les femmes, et que je vois chez mes copines, dans ma famille, où voilà, la femme va toujours jamais se sentir légitime, alors que l'homme va se sentir légitime, et c'est pas normal. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dès, pour moi, la petite enfance. Tu vois, je m'entraîne sur ma fille.
Demandez plus que ce que vous aviez en tête.
Ouais, et puis surtout, ne vous mettez pas en tête que vous valez moins.
Je suis assez d'accord sur ce constat que j'ai aussi observé, moi, plus en tant que chef d'entreprise, quand je vois effectivement les prises de parole ou les initiatives des femmes par rapport aux hommes, et je vois très bien qu'il y a un biais sur la confiance en soi, et donc forcément, ça précède l'entrée dans l'entreprise. Ça peut venir des parents, ça peut venir de l'école, etc., mais enfin, c'est une des grandes questions qu'il faut se poser, parce qu'après, il y a effectivement des carrières qui se font, pas forcément sur la compétence, mais effectivement sur l'estime de soi et la confiance en soi.
Complètement. Et tu vois, moi, j'ai une fille chez moi qui pour le coup est assez sûre d'elle, qui a bien monté dans la boîte et qui a, enfin, tu vois, qui a pas du tout ce problème, je trouve. Et une fois, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, bah, tu sais, c'est simple, je suis l'aînée de ma famille. Mon père voulait un mec, donc il m'a éduqué comme un mec. Voilà.
C'est vrai qu'on entend ça parfois.
Bon, bah, superbe transition entre ta carte blanche et notre dernière rubrique, la rubrique clin d'œil au collectif du même nom, le collectif Sista. Avec Olivier et notre associé Solène, on trouvait que le Next 40 était encore très masculin, mais évidemment, ça va changer. Et pour féminiser notre programme auditif, on demandait aux entrepreneurs, on leur demande à chaque épisode de choisir une femme entrepreneur qu'ils ont envie de mettre en lumière parce qu'ils l'admirent. Alors, toi, tu es une femme entrepreneur. Je peux te proposer de mettre une femme entrepreneur en avant et on lui donnera le micro dans quelques jours ou quelques semaines. Mais comme tu es une femme, tu peux aussi décider de mettre en lumière un homme si tu veux.
Non, bah, écoute, je vais mettre une femme en lumière, du coup.
Très bon choix.
Voilà, donc je vais mettre en lumière une femme que j'apprécie beaucoup, que je trouve brillante. Sympa et qui a monté une super boîte qui s'appelle Skello. Elle s'appelle Kitri Matelin-Moreau. D'ailleurs, c'est deux femmes qui ont créé cette boîte, Kitri et son associé Emmanuel. Voilà, c'est une super super entreprise. Kitri est une véritable entrepreneur qui est jeune. Hein, elle a moins de 30 ans. Elle a déjà monté une très belle boîte et puis je suis sûre qu'elle sera très bientôt au Next 40.
C'est quoi Skello en deux mots?
Skello, ils font du schedule. C'est moi qui disais que j'arrivais pas à trouver mes mots. Pour les gens qui bossent en boutique ou en resto, du planning, tu sais, de salariés qui bossent dans les restos, les magasins, etc.
Si tu as une question à lui poser, on lui posera en ton nom.
Je sais pas, Kitri, jusqu'où veux-tu aller avec ton entreprise?
Eh ben, écoute, parfait. On a passé deux épisodes de podcast qui ont été passionnants avec Alix de Sagazan et sur AB Testi d'abord. Et puis, évidemment, là, on conclut cette partie plus personnelle. Et on te remercie infiniment d'avoir joué le jeu, d'ailleurs, le franc jeu, d'une certaine manière. Comme ça, on a pu partager un peu les recettes du succès, à la fois de ta personnalité, mais également des ressorts du business. Donc, on a passé un très bon moment et on espère bien qu'il y aura beaucoup plus de femmes en Next 40 dans les années à venir parce que tu nous montres la voie.
C'est sûr qu'il y en aura plus. Et puis, bah, merci à vous deux. C'était très sympa. Puis, j'étais contente de vous entendre tous les deux.
Ça fait plaisir de te retrouver, même à distance, même ouais. Qu'avec le son. on entendait quand même le sourire malgré la mer et l'océan qui nous séparent. C'était aussi un plaisir de réentendre la voix de Rémi qui s'est complètement lâché avec sa série de questions.
Non, mais n'importe quoi. Non, mais franchement, j'ai adoré.
Ah, il a joué le jeu, c'est sympa.
Ouais, c'est excellent.
Merci Alix.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bon week-end. Merci. Bye.
Merci beaucoup.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.